Les Jardins des Autochtones.
Les Jardins des Autochtones.
Reportage.
Le off.
Les à côté.
Les chemins de traverse du festival.
Donc c'est bon alors, hein, on a trois gobelets et voilà. On a... Oui, c'est juste.
D'accord. Donc tu mettras là-dedans après. Voilà.
Oh, mais ça, on saura faire si nous.
Oui, allons.
Ça, on peut le faire, hein.
C'est quand même chiant, hein, sans les petites gourdes, hein.
Ouais. Ah oui, vous, t'as pas de gourdes.
Non, mais bon, ça va revenir l'année prochaine.
Ils appellent ça refaire les niveaux. On va refaire les niveaux.
Ça, c'est en maçonnerie qu'on dit ça aussi, non?
Non, mais c'est vrai que...
Mettre à niveau.
Merci.
Je ne sais pas si on va se mettre à niveau.
Non,
je serai
ravie.
Les filles, santé. Jean-Luc, santé.
Santé, bonheur et bonheur.
Merci. Sexueux, bonheur et fantaisie.
Voilà.
Sexueur, bonheur et fantaisie.
Sexueur, bonheur et fantaisie. Mais tranquille.
Sexueur, bonheur, moi il manque le premier, moi.
Merci de la fidélité.
Et attends.
Ah bien.
On connaît les bonnes boutiques, hein. C'est pour qui celui-là?
Mais voilà, comme vous venez de l'entendre avec ce petit son d'ambiance, nous sommes ici au stand de Métrangue du festival. Rendez-vous incontournable maintenant des festivaliers. Et pour nous aussi, à la radio, rendez-vous incontournable, hein, ça devient une habitude. Tu as pris ton abonnement, Jean-Luc, à la radio.
Ben oui, à la radio et au festival quand même, hein, ben voilà.
C'est la quantième année, donc tu viens, la neuvième, tu m'as dit.
Oui, c'est la neuvième année. En fait, je suis venu la première année en tant que festivalier. J'ai trouvé ça génial. Et puis, j'ai demandé, j'ai vu les responsables, donc Jean-Yves et tout. Et puis, je me suis renseigné. Il m'a dit, écoute, tu nous contactes et on verra l'année prochaine, mais pourquoi pas. Et là, maintenant, ça fait, donc c'est la neuvième année que je viens avec le Métrangue. Et voilà, je suis heureux, mais c'est toujours aussi chouette. Ça a pris un peu d'ampleur. Mais ça reste toujours aussi familial et puis on fidélise les clients, hein, donc c'est chouette.
C'est ce que j'allais dire, oui, tu as vraiment une panoplie de clients fidèles qui reviennent régulièrement et qui font un petit peu la fête d'ailleurs autour du stand. Il y a souvent de l'animation, début de soirée, on voit un petit groupe qui s'agglutine autour de ta petite tonnelle ici. Oui, tu les connais, tu as fait des rencontres à travers ça, on va dire humainement, personnellement, toi, qu'est-ce que tu en retires comme ça sur ces 9 années de fréquentation, de fidélisation?
Ici, de toute façon, tous les festivals, hein, moi je suis j'aime le contact, je veux dire, c'est le produit que je fabrique et que je vends, je l'adore, mais ce qui est extraordinaire, c'est le contact avec les gens, que ce soit ici ou dans d'autres festivals. Il y a quand même plus de 20 ans maintenant que je traîne un peu dans tous les festivals, que ce soit Esperanza, mais j'ai fait Dour pendant 18 ans.
Dis-nous un peu tous les lieux où tu montes le stand. Ouais.
Plus maintenant, je ne suis plus à Dour, mais Dour je l'ai fait pendant 18 ans. Mais je suis au Francofolie de Spa depuis 15 ans, je suis plus ancien d'ailleurs du parc de 7 heures. Le plus ancien exposant, le plus vieux comme dirait Maud. Je leur gueule quand elle me dit ça. Et génial, j'ai les Ardentes aussi depuis le début aussi, maintenant je crois que c'est 6 ans, ici, donc ça c'est vraiment les gros de l'année. Depuis l'année passée je suis au BSF, donc le Bruxelles Summer Festival, et j'y serai de nouveau du 12 août au 21, ça c'est les gros, Un Soir Autour du Monde, qui est un très chouette festival, très familial aussi, donc musique du monde. J'ai fait Couleur Café pendant des années, mais bon, multinationale exige, Bacardi et tout, on m'a éjecté parce que bon, c'est quand même des grosses boîtes qui mettent plein de pognon et voilà. Mais Couleur Café me prend quand même une centaine de bouteilles qu'ils offrent. Donc c'est quand même chouette. Mais oui, ça reste... ce que je peux dire ici, c'est que c'est familial. Il y a un esprit dans ce festival à Esperanza qui est tous les âges, famille, des enfants, alors on en voit qui arrivent, elle a le ventre bien rond, et puis l'année d'après, elle vient présenter moi je suis le tonton de pas mal de gosses là, et pas mal de... Non, c'est chouette, j'adore, vraiment c'est... Et puis l'accueil aussi, sur le festival, il faut quand même le dire, au niveau de l'organisation et tout, moi j'ai un accueil impeccable, même s'il y a une petite panne de courant, comme c'est arrivé vendredi. Eh ben voilà, moi, mes frigos, le Métrangue est chaud, je ne vais pas le servir. On m'amène de la glace tout de suite pour qu'il soit bien froid. Donc c'est franchement, c'est chouette, un bel accueil, super. Ouais.
On va rappeler peut-être à nos auditeurs qui prennent l'antenne peut-être pour la première année ici, Radio Esperanza. Le Métrin, qu'est-ce que c'est exactement? Rappelle-nous un petit peu l'histoire, l'origine, la recette, la magie, le secret.
Bon, bah, le métringue est une boisson ancestrale. Hein. On m'appelle Jean-Luc Métringue, mais je suis loin d'être le concepteur, l'inventeur du métringue. Celui que je fabrique, le métringue que je fabrique, est une recette de ma bobonne, de ma grand-mère. Et c'est une macération de vin blanc, d'orange, vin blanc sec, d'orange, et une plante qu'on appelle la spérule odorante, la reine des bois, que l'on cueille au mois de mai, d'où vient le nom métringue, boisson du mois de mai. Et la capitale du métringue, c'est Arlon. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller au moins une fois à la fête du métringue à Arlon. C'est le troisième week-end de mai. La fontaine coule le samedi, la fontaine, pendant 2 ou 3 heures, coule du métringue. Il y a la confrérie du métringue et tout. C'est une, il y a plein de gens qui font leur métringue eux-mêmes. Et moi, j'adore d'ailleurs. C'est un produit quand même bien de chez nous. Et c'est notre patrimoine quand même. Hein, donc voilà. Et donc, celui que je fabrique, c'est une recette de ma bobonne, de ma grand-mère.
D'accord. Et oui, tu le fabriques et tu le vends exclusivement donc, sur des festivals. Ou est-ce que tu fais des dépôts dans des magasins aussi? Ou est-ce que vraiment tu privilégies le contact, le rapport humain, là, justement le stand pour donc, vendre?
Oui, bah, j'ai quelques endroits. J'en ai eu plus avant, mais j'en ai moins parce que c'est quand même... je prends de l'âge aussi. Hein, donc j'ai eu jusque 30, 40 clients qui vendaient mon métringue. Maintenant, à Bruxelles, bah, j'ai 5 établissements qui le vendent. À Liège, j'en ai 3, le cinéma Le Parc, la Casa Nicaragua. J'ai quelques établissements à Liège, mais de moins en moins, je cible quand même plus les festivals, les fêtes de quartier, les festivals, et j'ai quand même une clientèle de particuliers qui viennent chez moi, ils veulent une bouteille, deux bouteilles, 6 bouteilles. Là, dernièrement, bon, Francophonie de Spa, il y a un couple qui s'est amené, qui m'ont dit ben Jean-Luc, on se marie le 15 août, voilà. On s'est connus à ton stand, on s'est embrassés pour la première fois à cette table-là. Hein, et voilà, ben, il y a 6 ans, on ne s'est jamais plus quitté. Il y a 6 ans, et voilà, elle avait son petit ventre bien rond. Elle a dit, on se marie le 15 août, et voilà, on te demande 100 bouteilles de métringue pour l'apéritif de notre mariage. Voilà, donc c'est une des trucs où c'est génial, quoi. C'est vraiment...
Ça reste un, oui, très, très humain, un rapport très humain. Et ouais. Tu es donc au début et à la fin de la chaîne, quelque part. Et je vais parler un petit peu de la chaîne aussi, dans le sens où le bénéfice, il va pour un projet tout à fait particulier. Ça, tu peux peut-être nous en toucher un mot, le projet École Enfants Lumière.
Oui. Ben oui, c'est vrai que bon, moi, j'ai eu un accident de moto il y a des années. J'étais un gamin, j'avais 18 ans. Donc l'hiver ici, je ne supporte pas. Si je reste l'hiver ici, je dois prendre des anti-inflammatoires et des antidouleurs. Donc je pars toujours au soleil. Donc ça fait 17 ans maintenant que je suis au Brésil, dans la région de Salvador de Bahia. Et je suis tombé amoureux d'un village. Et voilà, j'avais une maison en ruine que j'ai retapée en me disant un jour j'en ferai une école. Ben voilà, grâce à la vente du métringue, eh ben, l'école existe depuis 10 ans. Il y a eu on a ouvert le 9 avril 2001. Et donc, grâce à la vente du métringue, ben, je paye le salaire des profs, la nourriture des enfants et tout. C'est un tout petit projet, mais qui fonctionne. Et c'est génial. Et bon, bah, je peux remercier surtout des festivals comme les Francophonies, comme les Ardentes, comme ici surtout, parce que ici, bon, je travaille, je n'encaisse pas d'argent ici, donc je travaille les crédales. Donc le festival Esperanza me paye des bouteilles au prix où je les vends à des particuliers ou des restaurateurs, mais en plus, le festival paye 2 euros par bouteille vendue directement sur le compte de l'école. Donc normalement, ici, en 3 jours, c'est un peu plus calme cette année, mais en 3 jours de festival, ben, ça me permet de payer un professeur pendant 4, 5, 6 mois, 8, 6 mois parfois. Donc c'est génial, c'est vraiment super, mais je remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et je crois qu'il est, quand ce festival comme Esperanza, des gens disent « ouais, 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 ils sont des frics et tout », moi je sais très bien que c'est faux, et je sais très bien que c'est vraiment un truc social et équitable. C'est fantastique. Et c'est vrai que là, bon, sur ce festival, bon, j'ai le camion pour venir que je loue. En vendant les bouteilles au prix où je les vends au festival, je ne gagne pas grand-chose, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment, c'est rentrer dans ce truc équitable. Et Esperanza, vraiment, ne gagne pas beaucoup non plus sur les bouteilles. C'est vraiment équitable. Donc, quand on voit l'accueil qu'on a ici, ce que ça leur coûte, payer les groupes et la structure et tout, ben à mon avis, il ne doit pas rester grand-chose. Hein, oui, parce qu'ils le font vraiment, ils reversent directement sur le compte de l'école. C'est magnifique.
Oui, et c'est pour ça que j'insistais un petit peu sur la notion de chaîne où on te voit, mais au début et à la fin. Patoche aussi, par exemple, un des vendeurs ici, est au début et à la fin de la chaîne.
Ben oui, bon, voilà. Patoche, bon, ben, je ne sais pas si vous êtes déjà venu voir du maître-ingue à mon stand. Ça fait quand même 4 ans qu'il travaille avec moi. C'est le petit rasta blond, là, qui est toujours à pieds nus, avec les pieds tout sales, qui aime mieux le camping que d'aller autre part, mais qui est extraordinaire et qui fait un travail terrible. Il était à l'UNIF, il est à l'UNIF à Bruxelles, donc à l'ULB, et il devait faire son rapport, un stage de fin d'études, et il est venu faire son stage. Donc je l'ai débauché, il est venu faire son stage pendant 3 mois, donc à l'école au Brésil, il a fait un travail extraordinaire, je le remercie beaucoup. Il va mieux en parler que moi de ce qu'il a vu là-bas, du projet, et voilà, donc il est encore ici avec moi là cette année, et des gens comme ça qui mordent vraiment et qui aident vraiment, parce que c'est le faire plus pour aider que pour gagner de l'argent. C'est sûr qu'il est bénévole chez moi, que je le paye quand même un peu plus qu'un bénévole parce que son travail il est tellement impeccable. Mais quand je vois le travail qu'il a fait là-bas, les gosses pleuraient quand il est parti. La professeure m'a dit, Jean-Luc, ben des gens comme ça, tu peux m'en amener des dizaines et des dizaines, qu'elle dit, parce que c'était vraiment génial. Alors, je crois que j'ai plutôt lui laisser la parole maintenant.
Oui, on
va. Tout grand merci de nouveau à toute l'équipe d'Esperanza, à tous les festivaliers, à vous tous. Et puis on va passer Patoche et Patoche.
Il a à dire.
Vraiment, je crois qu'il a des choses à dire. En tout cas, il va pouvoir expliquer ce qu'il a vécu là-bas, ce que le projet vraiment qui existe et qui est, voilà, c'est quand même important.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Merci toi.
Merci Jean-Luc. Oui, Patoche. Donc, c'est ça, quand on parle de cette notion d'être présent un petit peu à tous les niveaux du travail, c'est pas simplement monter une asso, c'est rester en bureau. Voilà, ici, on parle vraiment de poignée dedans, de participer au projet. Donc, pour ta part, c'est, comme je le disais là, à l'instant, c'est vendre ici le maître-ingue sur le festival. Et c'est un long, long travail quand même, hein, faut le dire, permanent. Et pour ta part, donc, c'est aussi aller participer donc, au projet Abaya. Et, mais parle-nous un petit peu, dis-nous un petit peu pratiquement, qu'est-ce que tu faisais là-bas dans l'école?
Qu'est-ce que je faisais? Eh ben, j'étais ce qu'on peut appeler un assistant instituteur. Donc l'institutrice, elle avait son quotidien et moi je l'aidais dans tout ce qu'il y avait à faire, que ce soit de laver les dents des enfants, préparer le repas s'il fallait, s'occuper des activités, organiser, on faisait des décors par exemple, on a fait des petits anges en laine pour la période de Noël, tout ça, il faut préparer à l'avance. J'aidais tout ça, on a organisé la fiesta de primavera, la fête du printemps. Et tous les déguisements, il fallait les faire pour les enfants, des petites sandales. Ça nous a pris de longues heures d'après-midi et de nuit pour arriver au bout. Mais on l'a fait. Et voilà, tout ça pendant 3 mois. Un quotidien merveilleux avec des enfants qui ont entre les plus jeunes avaient 2 ans. On en avait qui avaient pas encore 2 ans. Et sinon, c'est 3 ans, de 3 à 6 ans. C'est une école maternelle, hein, faut le dire. C'est, donc,
c'est des tout petits, ouais.
C'est des tout petits. Ce sont des tout petits qui n'apprennent pas du tout encore ni à lire ni à écrire. Ils apprennent par contre à chanter. Frère Jacques, ils peuvent vous la refaire en français. Ils l'ont présenté devant leurs parents à la fête de Noël. C'était vraiment une expérience magique.
Et c'est dans le cadre donc d'un stage, pour, comme vient de le dire Jean-Luc, donc pour l'université de Bruxelles ici. Est-ce qu'en termes de stage lui-même, est-ce que ça t'a apporté de bons points? Est-ce que ça t'a permis de passer ton année mieux? Comment ça a été pris en tout cas par l'université même, au point de vue de ton cursus scolaire?
Ok, ben voilà, en fait on est coté sur un rapport de stage qui traite de ce qu'on a fait et de l'organisme en lui-même, plus tout ce qui est aspect par rapport à nous, ce qu'on veut, ce que vont faire dans le futur, si ça correspondait un peu à ce qu'on a essayé de chercher pour s'investir. Donc moi j'ai remis mon rapport de stage, j'ai eu pas des points mirobolants, mais c'est surtout le travail que j'ai fait là-bas qui est difficile à retranscrire sur papier évidemment.
C'est pour ça que je me posais la question, ouais.
Donc c'est difficile, le jugement était pas, je présume pour les professeurs ça doit être aussi difficile que pour nous de voir parler de ça sur papier quoi. Eux devoir juger ce qu'on a fait sur papier, c'est pas facile à mon avis.
Je comprends, oui, oui, mais c'est pour ça que je posais la question, ça m'interpellait un petit peu, mais en fait c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est
ce
un stage. Voilà, c'est ce qu'on avait. Qu'est-ce que alors on va dire alors sortir du cadre scolaire, qu'est-ce que tu en as rapporté toi, comment te sens-tu enrichi par cette expérience?
Comment je me sens enrichi? La première expérience avec des enfants aussi longue. Donc émerveillement comme un enfant quoi. comme un enfant. Moi, si je pouvais, je retournerais là-bas demain. Je referais exactement la même chose, sans problème.
C'est un rapport qui t'a beaucoup apporté.
Ouais. Ouais, j'ai beaucoup gagné, une autre culture. Je partais de chez moi, je vivais dans cette communauté au-dessus de l'école. J'ai appris le portugais, entre autres. Ça, c'est important aussi. L'air de rien pour moi, pour le futur. Voilà, j'ai appris à m'organiser tout seul. J'ai enfin sorti de chez ma maman, comme on dit. Non, et voilà.
Et oui, t'as peut-être une anecdote, justement un moment qui t'a le plus touché. On a envie d'en savoir un petit peu plus, justement. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus.
Ce qui me touche, c'est...
Ce qui t'a touché, ouais. Ce qui t'a vraiment bouleversé au niveau donc, humain, émotionnel. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Rapporte-nous quelque chose de je ne sais pas.
La première fois où les enfants m'ont sauté dans les bras pour me dire au revoir à la fin de la journée. Ça, c'est au début, les enfants sont très distants. Puis après deux semaines, trois semaines, ils s'habituent un peu à nous. Et puis après, ils nous serrent la main pour nous dire au revoir. Et puis au final, ils courent dans nos bras. Ça, c'est la première fois que ça arrive, c'est merveilleux. Et après, on n'y coupe pas, hein. C'est tous les jours. C'est tous les jours comme ça.
D'accord. C'est... Donc, tu y retourneras maintenant.
Ah oui.
Tu t'es fait des amitiés fidèles là-bas.
Tout à fait. J'espère que les enfants ne m'oublieront jamais. Ça, parce que moi, en tout cas, je ne les oublierai pas. Ça, c'est sûr.
Magnifique. Je crois qu'on va garder ça comme mot de la fin. Merci à toi, Patoche.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Bonne continuation à tous.
Salut, Jean-Luc.